Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Que celle dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Où donc est l'officier de bouche?
On l'appelle garçon, sire.
Tiens, garçon, garçon, vous appelez bien ça un restaurant?
Quick.
Pardon.
Quick lunch.
Ouais. Garçon.
Barman.
Monsieur.
Et vous voyez, sire, il suffit de parler français.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Parmi diverses spécialités nationales, il semble qu'il faille inscrire la passion avec laquelle nous débattons en France depuis longtemps de ce qu'on pourrait appeler, pour reprendre en l'adaptant un mot à la mode ces jours-ci, l'identité linguistique française. J'ai invité ce matin sur ce thème Alain Rey, bien connu des auditeurs de Radio France, à vrai dire le plus célèbre de nos linguistes et lexicographes, auteur ou responsable des précieux dictionnaires Robert. Il se trouve en effet que le linguiste Alain Bentolila, inspirateur des réformes du ministre sortant Gilles de Robien sur l'apprentissage de la grammaire, dans un ouvrage intitulé « Le verbe contre la barbarie », vient de poser à nouveau la question du rôle des pouvoirs publics dans l'évolution de la langue écrite et parlée. Il y affirme que la notion même de communauté nationale est menacée à l'heure de la tchatch et des SMS par le creusement des inégalités linguistiques avec des conséquences graves sur la circulation entre les classes sociales, avec des risques de renfermement de certains groupes sur eux-mêmes. Dans le même temps, Pierre Encrevé, qui avait inspiré la réforme de l'orthographe au temps de Michel Rocard, Pierre Encrevé vient de publier chez Gallimard de passionnantes conversations sur la langue française, c'est son titre. Des conversations qu'il a eues avec Michel Brodeau et où il se montre nettement plus optimiste, persuadé que la diversité des parlés est en somme une richesse et que c'est grâce à elle que l'ensemble francophone manifeste une créativité prometteuse. Aux yeux de Pierre Encrevé, il n'est d'autre défense et illustration de la langue française que de favoriser, je le cite, « la vie vertigineuse et perpétuelle que cacherait son apparente immobilité et son illusoire unité ». Bref, le sujet est dans l'air et comme toujours, le recul historique est éclairant.
Plaignez les vrais parios, ceux de Belleville et de la Villette, qui sont victimes des gens honnêtes. Les gens honnêtes sont des salauds. Ils nous avaient pris déjà notre volotte et notre java. Avouez que nous ne sommes pas vergeaux, v'là maintenant qu'ils nous chipent notre argot. Dans toutes les classes de la société, la langue verte est adoptée. Chacun en doute fait à sa manière son petit vocabulaire. Vous gênez pas, y a du choix dans les mots. Un lit, un plume, un pucier, un pajot. Et appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous, pourvu que dedans j'y trouve ma poule. Ma régulière, ma gonzesse, ma houerie, ma musaraigne, ma ménesse, ma souris. Et appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous, pourvu que le petit homme ait gros sous-sous. Du fric, du blé, de l'auberge, de la braise, des picaillons, du blouse ou bien du pèse. Et appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous, pourvu que j'en ai toujours plein les poches. Plein les profondes, les fouilles et le morlingue, pour que mes ziguettes badourent petites fringues. Et appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous, tout ce que je veux c'est d'avoir malgré tout des chouettes tatanes et de pas de petits costards. Pour jouer au marle, au dur, au malabar. Et appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous. Pourvu qu'au bistrot je prenne un verre, un glace, un drink, un godet ou un pot. Avec les mecs, les amanches, les poteaux. Et appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous. Tout ce que je veux c'est de pas sucer des clous. Briffer, becter, sans pifrer le cornet. Se cogner le tronc sans mettre plein les trous de nez. Et appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous. Je me débine car c'est l'heure de la croûte. Trisser, calter, se barrer en loustoc. Carguer la voile et hisser le grand foc. Appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous. Tout ce que je veux c'est bien me taper le chou. Gueuler, piauler, discuter le bout de gras. Ramener sa fraise, on vendra, remettre ça. Et appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est de pas m'esquinter de choses. Le vase, le prose, le fing, le coquillard. À faire le schnock, le câble, le zigomard. Et appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous. Je suis pompé, grottier, tout et tout.
Ray, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre Maurice Chevalier dans une chanson de 1939, « Appelez cela comme vous voulez ». C'est une chanson de Georges Vamparis et de Jean Boyer. Nous allons commenter cette chanson, bien sûr, mais auparavant, je voudrais signaler que un des motifs de mon invitation, c'est que vous publiez ces jours-ci, avec Frédéric Duval et Gilles Siouffi, un gros livre qui s'appelle « 1000 ans de langue française » avec ce sous-titre « Histoire d'une passion ». Je me suis demandé si ce sous-titre n'était pas, d'une certaine façon, à dessein ambigu.
C'est tout à fait ambigu parce que la passion nous anime tous, en particulier les francophones et les Français.
Plus dans les autres pays,
parmi
finalement.
Eux, plus, me semble-t-il, que dans la plupart des autres pays. Ou alors, ça se passe autrement. Les Russes ont une véritable passion pour leur langue, mais elle s'exprime plus dans la conservation des expressions familières, populaires, une sorte de folklore. Et, tandis qu'en français, c'est une affaire politique et conçue comme telle.
Mais alors, passion, c'est un autre sens.
Alors, passion a volontairement cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a aussi la passion du Christ et c'est un peu ce que a pu subir la langue française sous des efforts contradictoires, les uns allant vers une unification forcée, les autres étant favorables à une multiplication des façons de s'exprimer. Et là, Maurice Chevalier a très bien exprimé ce second point de vue en disant « appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous
». Oui, oui, nous trouvons d'entrée de jeu ce mélange des deux grands thèmes qui vont assurément parcourir notre émission. D'une part, l'idée de la vitalité d'une langue qui ne cesse pas de bouger, et d'autre part, des efforts constants de normalisation de cette langue. C'est cette dialectique-là qui constitue, en somme, l'histoire de la langue française.
De la plupart des langues, je pense. Je crois qu'il y a un grand parallélisme là avec plusieurs grandes langues européennes, en tous les cas. Et ce qui me frappe, c'est le parallélisme dans l'histoire de l'évolution du français avec celle de l'anglais.
En effet, Maurice Chevalier, en somme, nous dit voilà la vitalité du vocabulaire. Et en même temps, si vous voulez me pousser à employer un mot ou l'autre, ça m'est bien égal, je m'en fous. Est-ce que vous connaissiez tous les mots qu'il emploie Vous aviez l'air de très étonné du mot coquillard.
Oui, oui, en particulier. Mais ce qui m'a frappé, c'est le fait que dans la totalité de cette chanson, qui est donc écrite par Vamparis pour la musique, je pense, le côté linguistique a déjà terriblement vieilli. C'est-à-dire que la proportion de mots qui ne sont plus d'usage, même s'ils sont compris. J'ai noté les amanches pour les amis qu'on trouvait dans les pieds nickelés à l'époque, dans les patents.
Disparu.
Ou en loose doc, pour en loose dé, ça se dit peut-être encore, mais en loose doc, je pense plus du tout. Ou bien se taper le chou pour bien manger, sont des choses qui sont disparues. Alors, ce qui me paraît assez fascinant, c'est qu'il y a autant de déperditions dans un texte de 1939 quand il est à ce niveau populaire, qu'il y en aurait dans une pièce de Molière.
68 ans de distance.
Seulement.
Oui.
Et là, vraiment, non, ça veut dire une chose, c'est que le vocabulaire général bouge relativement lentement en apparence, parce qu'il y a des mouvements de sens en profondeur, et que les vocabulaires marginaux, populaires, techniques, etc., ceux qui ne sont pas de commun usage, sont plus rapidement usés et remplacés, bien sûr. Parce que ce qui est frappant dans la chanson écrite là, c'est la multiplicité des synonymes.
Ouais, et en même temps, j'ai eu le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, que dans certains domaines, il y a eu moins d'obsolescence. C'est-à-dire que, par exemple, les mots qui concernent concerne l'argent, ont moins vieilli que les autres, que ceux qui concernent l'amour ou le postérieur.
C'est vrai, peut-être que les réalités un petit peu taboues changent un peu plus vite parce qu'on masque un peu la réalité qui est désignée, alors que les choses qui sont à la fois fondamentales et dissibles, parce que c'est pas malhonnête de parler de boissons ou d'argent quand on en a besoin, de l'un comme de l'autre d'ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose, parce que là il y a à l'argent le flouze, le pèse, le fric, c'est resté tout à fait vivant et tout à fait, malgré le changement du franc à l'euro. Donc l'institution change, mais le rapport affectif à la chose ne bouge pas. Et c'est vrai que dans les dictionnaires anciens, tous les mots de la sexualité sont souvent évoqués, mais par des moyens détournés, et ils ont tous changé.
Nous aurions pu bien sûr commencer notre réflexion, ce double point de vue, vitalité énorme, profusion du nouveau vocabulaire et effort pour le corseter. Nous avons pu commencer loin en arrière et notamment au XVIIe siècle. Vous avez d'ailleurs récemment publié un beau livre sur Furetière. On aurait pu parler de Furetière, de Bougelat.
J'aime beaucoup Furetière parce qu'il est à la fois un témoin justement de la norme et d'une norme pour lui idéologique et religieuse. C'était très conservateur à la fin de sa vie et à la fois un témoin du mouvement et de la vitalité qui à cette époque reflétait la montée de la bourgeoisie contre le diktat du bon usage proféré au nom de la noblesse. Et la noblesse était représentée en l'espèce par l'Académie française et Furetière a eu, comme chacun sait, un rapport affectif double d'amour et de haine avec l'Académie qui a fini par l'éjecter.
Nous voyons là un effort de réflexion, mais c'est très difficile sur la relation qui peut exister entre les évolutions de la langue et les évolutions de la société. Et le problème se pose dès 1789, puisque nous commençons avec la Révolution française et qu'on peut s'interroger sur l'effet de cet événement immense sur la langue française.
Bien sûr, la Révolution de 89 a été, sur le plan des structures profondes de la langue, pas du tout une révolution, parce qu'on a remarqué, c'est très juste, que le discours de Robespierre est très proche du discours des jésuites. Il a d'ailleurs été formé de cette façon. Mais les contenus ont changé complètement, et en particulier, le lexique a été totalement révolutionné, à la fois sur le plan institutionnel, ce qui était prévisible, mais aussi sur le plan scientifique, avec la révolution de la chimie, par exemple. Lavoisier révolutionne totalement la terminologie de la chimie, qui prend ses couleurs modernes très exactement à cette époque-là. Et la révolution a été créatrice de mots dans une proportion qu'on ne réalise pas toujours, et des mots qui sont très inattendus, parce que d'abord, on peut remarquer que contre-révolutionnaire est apparu un tout petit peu avant révolutionnaire, ce qui est quand même significatif, et que d'autre part, un mot comme bureaucrate et bureaucratie sont des créations révolutionnaires, ce qui est assez inattendu, mais finalement pas du tout, parce que le besoin de la République de s'organiser en évitant les façons de faire de la royauté, ça a produit ça. Ce qui m'étonne, c'est que des mots qui avaient été proposés à l'époque n'ont pas vécu. J'avais beaucoup aimé le remplacement de royauté par loyauté.
Ce jeu de mots a fonctionné à un moment.
Le royaume de la loi, c'est le conventionnel Gara qui avait prononcé.
On trouve dès ce moment-là cette double source de vocabulaire nouveau, c'est-à-dire d'un côté les mots de la technologie, les mots professionnels, souvent savants, et puis de l'autre les mots à la mode, les mots qui surgissent d'ailleurs.
Et qui surgissent de toutes parts, parce qu'ils peuvent être formés en français, ils peuvent venir de régions qui ne s'exprimaient pas encore par écrit, il y a des mots dialectaux qui passent en français central, et ils peuvent naturellement venir d'emprunts à des langues étrangères. Et à l'époque de la Révolution, on a cette impression que l'anglicisme est déjà roi.
Nous allons voir un peu plus tard l'apparition des mots nouveaux, et comment ils surgissent, comment ils s'imposent, comment ils disparaissent. Mais auparavant, je voudrais noter que c'est le temps où fleurissent déjà un certain nombre d'enquêtes sur la réalité des parlers en France, ce qui est évidemment indispensable pour la réflexion rétrospective.
Alors, il y a tous les travaux. Et pour l'action.
Hein. Et pour l'action à l'époque, bien sûr. Donc on est toujours à la rencontre entre l'étude de ce qui surgit et de ce qui s'organise pour maîtriser l'évolution. Il y a Grégoire d'un côté et puis des personnages beaucoup moins connus, qui sont les Coq-Bert.
Oui, alors l'abbé Grégoire n'est pas seulement connu par son action pour le français mais contre les dialectes et langues autres que le français en France, parce qu'il identifiait le français à la langue du nouveau régime et il identifiait les dialectes comme langue de la réaction et du passé. Et il s'appuyait naturellement sur l'usage exclusif en Bretagne du breton qui était pratiqué en particulier par l'Église, ou en Alsace, l'usage d'une langue voisine de l'allemand, qui n'est pas l'allemand, l'alsacien est un dialecte alémanique, qui, ressemblant à l'allemand, était finalement dans son esprit un peu la langue des émigrés. Et ça, c'était une chose. Donc son action était positive pour le français, et en même temps, il a initié, comme on dit assez mal aujourd'hui, le traitement jacobin des langues qui a constitué à passer le rouleau compresseur du français pour éliminer ce qui se disait autrement. Cela dit, je remarque que l'action de l'abbé Grégoire qui était de détruire les langues et les patois, ce n'est vraiment pas lui qui est responsable de la suite.
C'est qui ?
Il s'est fait autrement. C'est la société dans son ensemble, les chemins de fer en particulier.
C'est plus tard. Mais restons un instant, si vous voulez bien.
Le brassage.
À l'époque de l'Empire, à l'époque de Napoléon, où le français s'impose comme langue administrative davantage, en même temps que s'impose l'administration impériale. Et c'est de ce temps-là que date l'enquête des Coquebert, à laquelle vous faites un sort dans votre livre.
Oui, alors il y a un Coquebert de Montbray et son fils, qui successivement ont occupé un poste au bureau de la statistique, dans les ministères de l'Empire, et qui étaient chargés de faire une enquête dont on voit très bien les implications politiques, puisqu'il faut se rappeler que la France impériale n'était pas notre France.
130 départements.
130 départements, ça remontait jusqu'à la Hollande, vers le nord, ça descendait jusqu'à Rome, vers le sud, et donc il s'agissait de savoir quelle était la proportion des langues parlées dans cet empire français.
Statistique langagière comme instrument de pouvoir.
Comme instrument de pouvoir, c'est-à-dire savoir si on pouvait faire reculer l'italien ou l'allemand par rapport au français, et donc aux frontières, ça permettait aussi de mesurer le poids de l'alsacien, du francique, du flamand.
J'ai ici sous les yeux les chiffres des Coquebert. 28 millions de locuteurs du français, 4 millions de l'italien, voilà. 2,5 millions de l'allemand, un peu moins du néerlandais flamand, c'est déjà ambigu, un peu moins d'1 million de bretonnant, mais quand même 1 million, plus de 100 000 locuteurs du basque du côté de l'Empire français. Voilà.
Alors pour le basque, ça n'a pas fondamentalement bougé. Évidemment, pour le breton, ça a terriblement reculé. Mais je pense qu'il ne faut pas en rendre responsable ni l'abbé Grégoire, ni les Coquebert de Montbray, qui eux étaient des administrateurs fidèles et rigoureux, excellents descripteurs, mais qui ne prétendaient avoir aucune action sur les choses.
Et puis les Coquebert s'intéressent, comme Grégoire, d'ores et déjà à ce que la différence de capacité langagière des citoyens peut signifier du point de vue des inégalités sociales. Et pour évoquer ça sur le mode plaisant, écoutons donc cette chanson de Jacques Pils qui s'appelle Dictionnaire 1943. C'est une sorte, vous allez voir, de moderne Christian de Neuvillette, mais sans Cyrano derrière lui.
J'ai voulu écrire à celle que j'aime une longue lettre toute remplie d'amour, mais quand il me faut broder sur ce thème, malgré ma passion, je suis pris de court. Je cherche les mots que mon cœur soupire, ne les trouve point, soupire à mon tour. Pour un amoureux, connaissez-vous pire que de ne savoir exprimer l'amour? Mais un jour, j'eus l'idée de prendre le Larousse afin de pouvoir mieux exprimer mes pensées, clamer tout mon amour à une jolie rousse. Certes, c'est enfantin, mais fallait y penser. À la lettre A, j'ai trouvé amour. Ce vocable-là, je le connaissais. Mais ça ne fait rien, mettons-le toujours. Mettons mon amour, d'ailleurs j'y pensais. À la lettre B, voyez quel hasard. Je suis tombé pile sur le mot baiser. J'aurais pu très bien tomber sur bazar ou sur bigoudi, tout était raté. Je puis maintenant commencer ma lettre. Mon amour, j'ai soif de tes baisers. Je sais qu'amour et baiser, c'est banal peut-être, mais c'est dans la rousse
et ça fait oser. À la lettre C, j'ai trouvé caresse. C'est un mot très doux pour l'utiliser. J'ai soif de baiser, j'ai faim de caresse. Dieu que c'est bien dit, le voilà casé. Arrivons à D, tiens joli désir. C'est vrai que de vous j'ai un désir fou. Pour vous posséder, je veux bien mourir. Enfin je veux dire, je vous désire beaucoup. Je puis maintenant terminer ma lettre. Mon amour, je te désire tant, oui, tant. Cher petit oiseau, tu es le seul être à qui j'écris aussi longuement. Et vive le Larousse qui m'a permis d'écrire à une rousse tout ce que je voulais.
Il y avait là, évidemment, il y avait là Alain Rey, une petite malice de ma part, puisque c'est le Larousse qu'on cite et non pas le Robert. Larousse qui appelle d'ailleurs une rime un peu facile qu'on attendait.
C'est un bel hommage, mais ce qui m'a frappé dans la chanson de Jacques Pils, c'est que le personnage qui est censé vouloir exprimer l'amour et qui semble avoir de vrais problèmes avec l'expression écrite et même orale, considère comme une chose merveilleuse de trouver dans le dictionnaire des mots comme amour, baiser, caresse et désir, qui, me semble-t-il, sont dans le vocabulaire assez élémentaire de tout le monde. À part le mot bigoudi, il y avait vraiment dans la chanson aucun mot qu'on ait besoin, me semble-t-il, d'apprendre. Donc là, le dictionnaire est une aide, si l'on veut, pour fixer un peu les idées ou stimuler l'imagination de quelqu'un qui en a peu. Mais c'est quand même une leçon de vocabulaire assez restreinte. Et le cher Pierre Larousse, avec ses énormes, ses multiples plutôt lexicologies des écoles et son énorme dictionnaire universel du 19e siècle, n'aurait pas trouvé ça tellement valorisant.
Oui, oui, on peut trouver autre chose dans le Larousse, et en effet dans cette œuvre absolument splendide qui est ce Larousse universel, qui a été publié à cheval entre le Second Empire et la Troisième République,
absolument.
Et qui offre une profusion de réflexion, de moralisme. Enfin, ne nous égarons pas après avoir fait ce salut à votre grand ancêtre, à l'arrêt que fut Pierre Larousse. Je voudrais que nous disions un mot maintenant de la manière dont l'avènement de la bourgeoisie a pu peser sur le français, disons dans ces années du premier 19e siècle, 1815, 1848, jusqu'au Second Empire.
Oui, oui, c'est un régime assez restrictif des libertés, avec la démocratie censitaire, qui perpétuellement, et encore sous Louis-Philippe, favorise la richesse et favorise une richesse qui s'acquiert par l'entreprise et par l'activité, et non plus par la gestion d'un patrimoine terrien, comme c'était le cas par le passé. Donc il y a un transfert de pouvoir.
C'est le mot fameux de Guizot, enrichissez-vous. Mais il ajoutait par le travail et par l'épargne. Il aurait peut-être pu ajouter enrichissez-vous aussi par la connaissance poussée de la langue française, qui devient aussi un instrument de prospérité pour ceux qui la possèdent.
Non ? Oui, et qui devient un instrument aussi de réglage social pour unifier tous les Français, parce que la variété des langues, la présence des patois, la présence des langues régionales, a été à cette époque considérée, comme elle l'était d'ailleurs par les Jacobins préalablement, malgré l'opposition politique, comme une nécessité pour obtenir la civilisation accrue, parce que c'est un raisonnement qu'on trouve partout, qui est qu'il faut que les langues régionales reculent pour qu'une civilisation plus avancée s'instaure. Ça a été le même raisonnement pour la colonisation ensuite. Donc le français était un instrument de montée sociale. Ça a été vécu dans un humanisme de surface qui est fort critiquable, puisque derrière il y avait des intérêts économiques aussi bien pour investir la Bretagne que pour investir ensuite le Sénégal.
On trouve d'ailleurs la trace de tout ça dans beaucoup d'écrivains à l'époque, par exemple Flaubert.
Flaubert, dans son voyage en Bretagne, qui s'étonne quand il passe à Daoulas, voulant demander son chemin, il était avec Maxime Ducamp, son ami, et on lui répond, dit-il, par des cris incompréhensibles. Alors il est assez curieux de voir qu'une langue étrangère est transformée en cris quasi animaux, et ça souligne que pour un écrivain normand, qui donc connaissait sans doute au moins passivement le patois normand, qui n'était pas si éloigné que ça du français central et qui était très soucieux de pureté de la langue française, tout en étant très, très créatif dans sa correspondance, ça c'est Flaubert, était quand même étonné, très près de chez lui, de tomber sur un pays où la langue était pour lui totalement incompréhensible. Et ça, l'incompréhensibilité étant immédiatement jugée comme une infériorité. C'est ça le drame.
Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà une curiosité pour ce qui pouvait être la créativité populaire du langage, en particulier pour l'argot ? De quand date d'ailleurs l'expression argot ?
L'argot a remplacé jargon, et le mot argot est très ancien, mais il désignait le royaume d'argot, c'est-à-dire un lieu fictif où se rencontraient les malfaiteurs. Leur langue n'était pas argot, mais jargon. Et on est passé du jargon d'argot, qui est un pays, encore une fois, à l'argot tout court, qui était son langage. Ça se passe au tout début du 19e siècle, et le grand témoin, c'est Vidocq, à cette époque. Et là, c'est quand même un langage crypté, un vocabulaire crypté, parce que le langage, c'est le français, qui est sous la syntaxe est française, mais les mots sont des mots soit hérités, soit créés. Et un des premiers observateurs de l'argot, et d'une manière absolument admirable, c'est Victor Hugo dans Les derniers jours d'un condamné, qui sont un chef-d'œuvre absolu, dans lequel il y a des passages assez nombreux, parce qu'il avait observé en prison, dans le quartier des condamnés à mort, des gens qui s'exprimaient, même par écrit, à des lettres en argot à ce moment-là. Et naturellement, un témoin alors célèbre et plus facile, c'est Eugène Sue. Et puis Balzac n'était pas, puisque Balzac a transformé Vidocq en Vautrin, et qu'il en a fait aussi un personnage qui a un double langage, le bon français et l'argot.
Oui, il est normal que Vautrin, que Vidocq, Vidocq dans la réalité, Vautrin dans la fiction balzacienne, incarne cet intérêt pour l'argot et ce passage si fréquent dans notre XXe siècle entre cette inventivité populaire et l'utilisation des mots par d'autres. Une brève archive qui va vous amuser, je pense, Alain Rey, qui est tiré de notre chère Tribune de Paris. Vous savez, les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. On demande à un invité à propos de l'argot, Fernand Trignol, on est le 14 octobre 1946, de traduire cette formule en jargon, en argot.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
L'argot est-il une langue ?
C'est ce que vont nous dire ce soir
Albert Dauzat, professeur à l'école pratique des hautes études,
Gaston Esneau, professeur honoraire du lycée Jean Sansaï,
le docteur Jean Leray, chirurgien adjoint des prisons,
et Fernand Trignol, l'auteur du récent mais déjà célèbre Pantruche.
Paul Guimard va mener le débat.
Eh bien, messieurs, je dois d'abord vous avouer que nous sommes un peu inquiets quant à la valeur de notre indicatif dans le cas présent, parce qu'enfin, Tribune de Paris, les hommes, les idées à l'ordre du jour, ça peut peut-être vous sembler un peu caf, comme vous dites, pour une émission sur l'argot. Alors, nous vous demandons une traduction. Fernand Trignol, Tribune de Paris, les hommes, les idées, les événements à l'ordre du jour, qu'est-ce que ça peut donner en argot ? Non pas une traduction littérale, mais enfin une traduction libre.
Ah, vous me foutez ça en pleine poitrine, mon vieux. Comme ça, sans me prévenir, hein.
Non, mais enfin, à peu près.
Écoutez,
Tribune de Paris.
On pourrait appeler ça jaspinage de pantruche.
Jaspinage de pantruche, d'accord.
Ça vous va, ça ?
Ça nous va. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Ben, les hommes, les gonces.
Oui.
Ce qui se goupille.
D'accord.
Ce qui se mijote. C'est pour la fin plutôt que c'est difficile. Ce qui se goupille, ce qui se mijote, il y a un vieux terme qui s'appelle le luisant, quoi. On pourrait arranger ça. Les gonces, ce qui se goupille, ce qui se mijote au rapport du luisant.
Eh bien, d'accord.
Parce que luisant veut dire la levée du jour.
Eh bien, nous retenons l'indicatif.
C'est quoi, la rage des bus souris? Vous disiez...
Ben, je crois que Trignol se mélangeait un peu les pieds parce que le luisant, c'était le soleil. Mais c'est de l'argot très ancien. Alors ça, plutôt du XVIIe siècle que du XIXe. Non, ce qui me frappe, c'est la gêne de Fernand Trignol, qui a un argot et qui s'exprime très bien et qui est capable d'écrire les dialogues de Fric-Frac, si je ne me trompe.
Pantruche, c'est Paris.
Qui était Pantruche, c'est Paris. et qui, quand on lui demande évidemment de traduire une phrase qui est tout à fait institutionnelle et qui est de l'ordre de l'abstraction, a du mal. Et il a une très bonne réaction, par exemple, sur les hommes, les gonzes, c'est facile, mais les idées à l'ordre du jour, il dit ce qui se goupille et ce qui se mijote. C'est-à-dire qu'il traduit un substantif par deux verbes. Et ça, je trouve que c'est de la bonne traduction intelligente qui analyse les contenus. Alors que sans Luisant, là, c'est loupé. Mais bon, c'est pas grave.
C'était à l'improviste.
C'était à l'improviste. Et puis, je dois dire que c'était un peu pervers de la part de la Tribune de Paris de mettre ce garçon qui était avec son bel accent parigot,
qui ressemble à celui
de Maurice Chevalier, en face d'Albert Dauzat, qui était quand même un très grand spécialiste de la langue française.
Normatif.
Et de... relativement normatif, je dirais, enfin normatif souple. Et puis Gaston Hainaut, qui lui alors était un excellent connaisseur de l'argot depuis juste avant la guerre de 14, il a vécu très très vieux, et qui avait fait, de même que Dauzat d'ailleurs, immédiatement après la guerre, en 1919, chacun de leur côté, un dictionnaire qu'ils ont appelé l'argot du poilu. Et en fait, la personnalité du poilu, combattant de la guerre de 14-18, sur le plan de la langue, qui n'est pas l'essentiel certainement, mais qui est très important.
Créativité extraordinaire.
Une créativité, et surtout, ça a été le triomphe de l'argot parisien sur toutes les variantes régionales françaises, et notamment de tous les poilus dont la langue maternelle n'était pas le français, qui étaient des dialectes. Donc la guerre a été un creuset qui a fait avancer le français et qui a donné comme modèle, admiré ou respecté ou pratiqué, en tous les cas, la langue populaire parisienne. Et ça, c'est un brassage social qui a certainement accélérer la francisation des régions et des provinces françaises.
Parce qu'on a moins pratiqué qu'à d'autres époques le principe du regroupement de paysans venus de la même région, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime, ce qui préservait au contraire les langues spécifiques.
Ben non, parce qu'à cause de la... Et puis de toute façon, quand une région donnait ses soldats, il y avait forcément le mélange entre les classes supérieures et moyennes de la société, qui étaient souvent des officiers ou des sous-officiers, et puis les hommes de troupes, qui étaient très souvent des paysans, dont le français était très très élémentaire, sinon nul, et qui parlaient des patois. Et ces gens-là ont été confrontés à la nécessité de communiquer entre eux, et il s'est passé une espèce d'école sur le terrain dont on voit alors les formes pittoresques qui sont l'argot, mais la réalité était beaucoup plus profonde que ça. C'était le langage de tous les jours.
Ça a complété les effets de l'école de Jules Ferry. Il y en a une trace d'ailleurs, non plus orale mais écrite, avec la correspondance des combattants, qui est une source du point de vue de l'histoire de la langue.
Et puis quelques romans plus tardifs, dont en particulier Le Feu de Barbus, qui est une description de la langue parlée.
Fidèle ou en partie
assez remarquable. Enfin, c'est une très belle écoute, en tous les cas. Fidèle, on ne sait jamais. Il faut jamais oublier une chose, c'est que l'utilisation de la langue populaire et des argots dans une œuvre littéraire est faite pour s'intégrer à une volonté esthétique globale qui est d'obtenir un style. En particulier, il ne faut pas compter sur Céline pour reproduire du français populaire parisien. Il l'utilise, ce qui est tout à fait autre chose. Mais on peut l'utiliser de manière fictive et on peut l'utiliser de manière fidèle quand on a de l'oreille. C'est aussi le problème de la description de l'argot dans Les Misérables de Victor Hugo, qui est dans toutes les mémoires, et qui pose des problèmes de fiabilité, parce qu'il est certain que dans les mots d'argot que donne Hugo, il y en a qui l'a inventé. C'est comme Géry Madette.
Tout reposait dans Zur et dans Géry Madette. Vous faites allusion à Beaux Endormis.
Oui, Beaux Endormis.
Parce que ça fait une rime à Day.
Oui,
et Ruth se demandait.
Géry Madette a l'air d'être un magnifique nom biblique. C'est une blague, c'est un calembour interne.
Et une sorte de canular.
Et c'est un canular merveilleux, parce que c'est... Donc on peut faire ça avec toutes sortes de langages. Et Hugo, décrivant l'argot, je pense, va au fond des choses et dit la vérité, tout en utilisant des éléments argotiques qui n'étaient probablement pas employés à l'époque.
Mais... Vous pensez que dans la littérature contemporaine, la nôtre, Il y a le même type de dialectique entre l'argot réel et puis, si c'est un sens, l'argot réel et la manière dont les écrivains s'en servent.
Ah, tout à fait. Je pense que on voit, et même chez le même écrivain, ça peut être différent quand il fait des dialogues fidèles.
Vous pensez à qui parmi nos contemporains?
Ben, je sais pas. Il y a de nombreux romanciers. Par exemple, Yann Kefelek qui fait des dialogues avec des personnages de la banlieue. Ça me paraît sonner très juste, mais d'autres peuvent très bien se servir de certains de ces mots ou de Verlan pour fabriquer leur propre style, même s'ils sont beurre d'origine, et en faire quelque chose qui peut être esthétique. Donc ça, je pense que c'est perpétuel. C'est un phénomène qui apparaît quand même beaucoup au début du 19e siècle. Il y a très peu de témoins du langage populaire avant cela.
En vous écoutant et en pensant à la correspondance des combattants de 14-18 que j'avais étudié jadis, j'avais été frappé par le fait que les censeurs prêtaient une grande attention à l'orthographe de ces lettres et signifiaient qu'on pouvait y lire des informations sur la situation sociale des scripteurs. C'est cette sorte de norme de l'orthographe qui a fait tellement débat au moment de la réforme de Rocard et qui en réalité... C'est une discussion constante. On la retrouve dans cette chanson de Gainsbourg que vous connaissez bien, j'imagine, et qui s'appelle « En relisant ta lettre ». Il y a une interprétation par Barbara. J'ai choisi celle de Gainsbourg lui-même.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur, là, y en a une. J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ce sera ta faute, ce sera ta faute. Là, il n'y en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins, n'en prend pas deux. Ça te calmera et tu verras, tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au E dans l'eau.
En relisant ta lettre, mêlée encore une fois à l'affectif et l'orthographe, c'est une manière aussi de reposer la question de la norme une fois de plus. Est-ce que...
Oui, alors là, il faut bien distinguer l'oral et l'écrit, hein, je crois, parce que la norme de la langue orale est exigée dans certaines circonstances, par exemple à la radio. Elle l'est beaucoup moins, ou dans des circonstances officielles, des discours, des choses comme ça. Mais dans la conversation privée, il y a beaucoup plus de souplesse et de spontanéité.
Encore qu'à la radio même, il y a eu une évolution, parce que toutes nos archives montrent que dans les années 1950, il y a un demi-siècle, la plupart des interventions étaient en réalité écrites.
Oui,
les dialogues spontanés, il y en avait à la Tribune de Paris, mais les dialogues spontanés étaient assez rares. La manière dont nous parlons aujourd'hui, naturellement, nous suivons une ligne, mais avec une spontanéité qui n'exclut pas quelques maladresses, hein, chez moi, pas chez vous.
Mais chez moi aussi, qui n'exclut pas ni une certaine recherche, ni une certaine maladresse.
Nous ne parlons pas comme nous parlerions devant une tasse de café, n'est-ce pas?
Mais, non, bien sûr.
Cette dialectique, nous n'avons pas encore évoqué, cette dialectique si importante entre l'écrit et l'oral est aussi au cœur de notre réflexion sur la question de la langue libre ou corsetée.
Tout à fait. Et ça commence avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, qui est un des problèmes majeurs de la pédagogie et qui le restera, à mon avis, pendant longtemps, parce que les interprétations sont très variées. Mais la créativité du langage à l'intérieur d'une norme écrite, c'est ça le problème que pose la chanson de Gainsbourg, là, tout à l'heure.
Et qui organise toute notre émission ce matin. Alors, je voudrais que nous parlions maintenant de ce que vous appelez tonnerre sur le lexique, à un moment donné. Comment est arrivée une sorte de prolifération de mots nouveaux, apparemment plus nombreux au XIXe siècle que ce n'était le cas
auparavant. C'est l'accélération de l'histoire, comme on dit un peu sottement, parce que c'est trop facile.
Oui, c'est trop facile.
À toutes époques, il y a eu du tonnerre, des orages sur le lexique, et à d'autres moments un certain calme, mais on ne peut que sous-estimer, vu de loin, la créativité du vocabulaire, par exemple, dans l'ancien français. On ne peut que sous-estimer, parce qu'on n'en connaît que des bribes écrites, qu'on n'a aucune idée de la variété des parlers, et que l'histoire fait qu'on ne parle plus à la fin du XIIIe siècle comme on parlait au début du XIIe, même au point de vue de la syntaxe et de la grammaire. Donc les changements étaient beaucoup plus profonds que dans nos siècles actuels, pour une raison très simple, c'est que presque personne ne savait lire et écrire, et que si on savait lire et écrire, c'était le latin qu'on pratiquait, c'était pas le français, ou ses variantes régionales. Et puis au XVIIe et au XVIIIe siècle, il y a cette unification, parfois un peu autoritaire, comme Malherbe, Vaugelas, et ça aboutit à une notion de la langue française qui doit être impérativement gracieuse, élégante, logique, claire.
C'est là que Rivarol dit cette chose finalement assez sotte, ce qui n'est pas clair n'est pas français.
C'est une chose qu'on peut dire dans toutes les langues, évidemment. Cela dit, le pouvoir analytique du vocabulaire français est certainement important. Par hasard si le français est devenu une langue du droit et du droit constitutionnel, notamment au XIXe siècle, ce dont s'est servi Napoléon pour exporter les institutions françaises ou une partie des institutions françaises à l'étranger. Donc tout ça est quand même très politique aussi, et je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension. La création des mots, pour revenir à ça, est un phénomène très complexe.
Quelles sont les sources? D'où est-ce que ça vient?
Alors il y a deux grandes sources, qui sont la langue elle-même, qui est capable de fabriquer des mots nouveaux. Je ne vais pas faire une allusion d'occasion à la bravitude, mais
elle est faite, ça s'appelle prétérition, ça. Je n'en parlerai pas, mais j'en parle quand même. Vieux procédé rhétorique.
Ayant observé que le suffixe itudo, itudinis était très fréquent en latin, et qu'il y avait beaucoup de dérivés d'adjectifs sous cette forme, je ne vois pas pourquoi le français se priverait de compléter la série des solitudes, incertitudes, certitudes et autres.
D'ailleurs, personne ne s'est privé du plaisir. Personne ne s'est privé du plaisir de continuer dans la même ligne récemment.
Exactement, tout en faisant mine de critiquer le point de départ.
Bon, ça sera dans 10 ou 15 ans ce qu'il en est resté.
Et il en restera, je pense, quelque chose qui est en tous les cas une certaine liberté de formation de mots nouveaux qui, ça je le rappelle au passage, en français n'est pas très grande. Le français a une morphologie, comme on dit savamment, qui est paresseuse, qui est un petit peu constipée, je vais dire. On dérive difficilement, on compose plus facilement et on préfixe beaucoup plus facilement. Mais les suffixes sont un peu en quarantaine et on s'en sert beaucoup moins qu'on ne pourrait le faire.
Vous pouvez expliquer ça pour les non-spécialistes, dériver
Dériver, je prends un mot comme brave. Et j'observe
toujours
que, oui, je prends un brave volontairement, puisqu'on a un nouveau là, mais dont je ne parlerai plus. Mais
vous pouvez, liberté chérie.
Le substantif qui correspond à brave est bravoure. Bon, dans ce cas-là, il se trouve que ce sont deux emprunts à l'italien. Le suffixe our n'est pas français. C'est bravo et bravoure. Et les deux ont été empruntés, donc ça n'est pas de la création en français. Mais en moyen français et jusqu'au XVIIe siècle, on disait très familièrement et très normalement et très joliment, je trouve, la braverie. Avec une nuance qui était plutôt une affectation, un côté un peu panache comme ça qui était donné. Et je trouve que je vois pas du tout pourquoi d'autres suffixes ne seraient pas utilisés comme ils le sont beaucoup plus facilement, par exemple en italien qui a une collection fantastique de majoratifs, mélioratifs, péjoratifs, diminutifs, augmentatifs qu'on peut employer quasiment librement. Il suffit de consulter les grands dictionnaires italiens pour voir que ça finit par être intégré dans le mot lui-même tellement on peut en fabriquer. Quant aux Allemands, n'en parlons pas, ils peuvent dériver arrivé composé quasiment ad libitum, et un mot composé allemand, c'est un peu au détriment de la légèreté de la langue, parce que les mots sont plus longs à ce moment-là, c'est très fréquent. Le français est dans la même position que l'anglais, il dérive pas beaucoup, et en plus il a une orthographe qui ne correspond pas à la phonétique.
Donc, c'est pour ça aussi que ayant cette pauvreté... cette pauvritude, non ? Il est amené le français. Non, mais j'aime bien qu'on puisse à la fois en sourire et en même temps considérer qu'il y a tout un soubassement de sérieux et qu'on puisse anticiper l'installation, la radio et la télévision, évidemment, aidant à cause de la promptitude qu'elles impliquent, que ça puisse s'installer ailleurs. Puisque vous évoquez les autres pays, évoquons ce réservoir formidable que sont les autres langues pour enrichir la nôtre.
Voilà, donc toutes les langues ont procédé par emprunt. On se plaît à rappeler, et on a bien raison, que la moitié du vocabulaire anglais est formée de mots d'origine latine passés par le français à l'occasion de l'envahissement de l'Angleterre par les Normands après la bataille de Hastings.
En somme, vous nous dites que l'identité langagière française est largement enrichie par l'immigration des mots, c'est ça qu'on peut dire ?
C'est ça qu'on peut dire, une sorte de métissage.
J'ai d'ailleurs sous les yeux une série de très jolies cartes postales qui ont été éditées récemment par les éditions Maxence Fabiani à Toulouse et qui représente tous les mots d'origine étrangère. Par exemple, les mots allemands, puisque vous évoquez les mots allemands, on voit accordéon, berline, bouquetin, landau, fuchsia, nouille, libido, teckel, hamster, etc., etc. C'est tout à fait fascinant, cette litanie de mots qui... Alors, mots d'origine portugaise, par exemple, caste, embarrassé, paillote, fétiche, griot, sargasse, zèbre, véranda, etc. Que ferions-nous sans tous ces mots immigrés ?
Bien sûr, et là il s'agit de beaucoup, pour les Portugais en particulier, des migrations qui viennent de plus loin, parce que c'est par le portugais qu'ont passé des mots qui venaient des langues africaines, des langues du Brésil, des langues indiennes, etc. Donc il y a tout un cheminement des mots qui permet d'alimenter finalement la machine des désignations, parce que c'était à ça qu'on aboutit. Il s'agit de parler le monde, et pour parler le monde, il faut des moyens, et quand le monde s'élargit, c'est ce que ça a été le cas à la Renaissance, il a bien fallu parler la tomate, le maïs et toutes choses qui étaient totalement inconnues en Europe auparavant. Donc on a employé des mots qui venaient de là-bas, ce qui me paraît assez logique.
C'est ce qu'exprime un sketch bien connu de Philippe Noiret avec Jean-Pierre Darras figurant Louis XIV et Racine. C'est un sketch qui était passé sur les ondes de France Inter le 9 octobre 1960.
Dites-moi, c'est bien un restaurant ici ?
Snack.
À vos souhaits.
Merci, sire.
Peut-on s'y restaurer ? Je souhaiterais un souper à deux services avec quatre potages, deux perdrix, la moitié d'un chapon, 12 euros, quatre relevés, pâtés, buissons d'écrevisses, langue de foie gras, rognon de coq, des bêtises, quoi.
Votre Majesté ne suit pas le bœuf.
Des crèmes et des brioches. Où donc est l'officier de bouche ?
On l'appelle garçon, sire.
Tiens, garçon, garçon. Vous appelez bien ça un restaurant ?
Quick.
Pardon ?
Quick lunch.
Oui. Garçon.
Barman !
Monsieur ?
Et vous voyez, sire, il suffit de parler français.
Entrée ?
Hot dogs.
Et ça se mange, ça ?
Ah, pauvre sire, il n'y a pas le choix.
Viande ?
Hamburger steak.
Et c'est bon ?
C'est tomato ketchup.
Ah, tiens.
Eggs and bacon ?
Bah, non, demandez-moi quelque chose de tout simple, voulez-vous ?
Sandwich. Ham and cheese.
Mon cher Racine, vous me feriez plaisir en vous exprimant comme un être humain. Voilà un long moment que vous me jetez à la face des mots barbares. Alors, non, voyons, peut-être quelque chose de sucré, hein? Un dessert.
Plum pudding, soupe anglaise, ice cream, cakes.
Mais vous délirez, mon cher!
Vous avez compris, naturellement, Alain Rex, c'était aussi un hommage au très regretté Philippe Noiret. Restaurant, ça existait vraiment déjà sous Louis XIV ?
Non, le restaurant sous Louis XIV. Restaurant est donc un dérivé, c'est le participe présent de restaurer. Et ça s'est employé pendant pas mal de temps pour quelque chose qui donnait de l'appétit, quelque chose qui en même temps soutenait un petit peu dans les moments de faiblesse. Le passage au sens moderne ne se fait qu'un peu plus tard et le restaurant que nous connaissons apparaît dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est d'ailleurs une invention française et on remarquera, parce que ça c'est intéressant à dire, que si le français emprunte beaucoup de mots, les autres langues empruntent énormément de mots français et vous avez ristorante, vous avez un restaurant et vous avez ce mot-là qui s'est promené dans le monde entier, finalement.
Oui, on peut se donner en Angleterre un rendez-vous pour un tête-à-tête dans un restaurant, c'est ça ?
Exactement, exactement. C'est tout à fait normal. Les échanges entre les langues qui ont de l'influence par leur culture sont incessants et sont dans les deux sens. Le problème grave, c'est quand une langue devient fournisseur du monde entier en étant moins réceptive. C'est peut-être le cas de l'anglais des États-Unis.
On peut dire aussi que dans certains cas, elle déforme la syntaxe et que ça peut apparaître comme plus préoccupant que d'enrichir le vocabulaire.
Ah, ça, certainement. Quand il y a des bribes de discours qui sont empruntées entières et pas des mots isolés, il y a un problème d'interférence entre deux syntaxes. Mais il faut dire là aussi que c'est une situation très, très banale dans toutes les situations de frontières où il y a deux langues qui se pratiquent l'une à côté de l'autre. Les Suisses connaissent ça, les Belges connaissent ça.
Quand je lis, moi, dans une publicité « changer pour une autre voiture », ça m'agace, mais je suis sûrement très normatif. Alors, puisque vous évoquez effectivement Suisse et Belgique, Alain Rey, il faut que nous fassions un sort à l'enrichissement qui vient de ces autres pays francophones, en particulier ce merveilleux réservoir d'idiomes et de langages que constitue le Québec.
Que constitue le Québec, que constitue le français d'Afrique aussi, qui est d'une créativité, justement, qui est beaucoup plus riche en dérivations spontanées que le français de France, parce qu'il y a moins de surveillance.
Et c'est vrai aujourd'hui, est-ce que c'était vrai déjà au 19e siècle?
Non, je pense pas. Je crois que c'est une sorte de prise de possession de la langue française par des gens dont les langues maternelles, en général, ils en ont plusieurs, sont nombreuses, mais qui se sont servis du français pour certaines activités collectives et qui savent en faire quelque chose de relativement nouveau, avec des expressions qui sont parfois très, très plaisantes, mais aussi avec une créativité. Quand on dit gréver pour faire la grève, je trouve que c'est plus économique et plus normal que de dire faire la grève, qui est lourd, qui est un factitif pesant, où on emploie le verbe faire avec le substantif, au lieu de créer un verbe qui s'impose tout à fait.
Donc, il me semble que nous sommes en train, de la même façon, de faire triompher le mot courriel à la place de email, courriel électronique.
J'espère qu'il va
triompher. C'est en train de marcher.
C'est en train de marcher, et il est très bien formé. Il y a aussi le clavardage qui est...
C'est quoi ça?
C'est le remplacement du chat sur Internet. C'est un bavardage sur le clavier.
Nous allons terminer cette conversation avec une archive qui nous donne à entendre Raymond Queneau en 1947, le 11 février 1947. Vous allez voir que dans son propos, qui est assez vigoureux, on retrouve cette question double de l'inventivité de la langue et de la norme acceptable ou insupportable.
Nous l'a-t-on assez ressassé, cette histoire de Malherbe et des crocheteurs du port au foin? Quand on lui demandait d'iraquant son avis sur quelques mots de français, il renvoyait ordinairement aux crocheteurs du port au foin et disait que c'était ses maîtres pour le langage. Bien que parmi les premiers académiciens, il y ait eu des disciples de Malherbe, on ne cite aucun exemple, à ma connaissance, d'académicien qui, sans épée ni bicorne, ait discuté le coup avec quelques bons potes grammairiens de la butte aux cailles ou de Houille-Seine. L'académie ne se reconnaît protectrice que d'une espèce de momie. Et le latin étant mort avec le tabac prisé versé dans la tasse de Santeuil, c'est une allusion littéraire, elle s'est évertuée à reconstituer une langue immuable, factice et desséchée, pas méprisable du tout, un fameux phénomène de grammaire. Est tellement impressionnante que Victor Hugo s'écria « Guerre au dictionnaire, paix à la syntaxe » ou quelque chose comme cela. On emploie encore couramment ce langage. Et c'est bien là le sort de la langue française de périr ratatiné. Cette algèbre du rationalisme newtonien, cet espéranto qui facilita les tractations de Frédéric de Prusse et de Catherine de Russie, cet argot de diplomate, de jésuite et de géomètre euclidien doit demeurer, paraît-il, le prototype, l'idéal et la mesure de tout langage français. Il est lamentable d'avoir multiplié les truismes. Or, le plus vulgaire dans ce domaine, c'est tout simplement qu'on ne parle plus comme autant de Bossuet. Remarque enfantine et pourtant rare, puisque quasiment personne n'ose en tirer les conséquences évidentes. Des gens qui ont de la lecture s'étonnent de la survie de la littérature latine. Il leur paraît monstrueux que de tout ait écrit son histoire en latin, et Newton ses principes, et Leibniz sa théodicée. Or, c'est là fait courant dans notre civilisation contemporaine. Nous voyons des manifestes d'ultra-gauche littéraire écrits dans la langue de Fénelon. Un sage chinois parle avec éloge d'un empereur qui, pour réformer les mœurs, commença par changer les signes, expressions du langage. On peut se demander et répondre dans un sens positif, sans beaucoup d'hésitation, si les fonctions efficaces d'une véritable académie ne seraient pas justement de transcrire et de préparer les nouveaux aspects de la langue française. Il faut proposer comme travaux sains et sanitaires à une académie idéale, non pas d'entériner les formes syntactiques ou les nouveautés lexicologiques, mais bien de préparer la mort du français sclérosé actuel et les possibilités d'une langue nouvelle, à supposer naturellement qu'une académie présente un intérêt quelconque.
flèche du part dans le propos de Raymond Queneau à l'arrêt. Vous évoquez la manière de parler à la radio, nous l'évoquions tout à l'heure. Là, on est encore dans le domaine de la causerie.
C'est très littéraire et c'est très noble comme manière de s'exprimer. Mais je pense que c'est volontaire de la part de Queneau, justement, pour attaquer même le langage qu'il emploie lui-même à ce moment-là.
Il parle lui-même des ultra-gauchistes, des gauchistes qui emploient le beau langage pour critiquer.
La langue de Fénelon. Mmh. C'est un peu parlé dans la langue de Fénelon, ce qui est assez... C'est étrange, cela dit, Queneau est capable du contraire, parce que Zazie dans le métro n'est pas écrit comme ça.
Oui, nous sommes 20 ans, là, ou 25 ans avant Zazie dans le métro. Il cite, parmi les grands auteurs, Victor Hugo. C'est une citation avérée ?
C'est « guerre à la rhétorique et paix à la syntaxe », ce que veut dire Hugo.
Il fait allusion probablement au fameux mot de « j'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire ».
Oui, c'est ça, il a dû mélanger les deux citations.
Il a zappé, comme vous disiez tout à l'heure.
Il a zappé. Alors, ce qu'on peut rappeler, c'est que la profération de Victor Hugo était dans un ton très romantique, parce que « et je criais dans la foudre et le vent, guerre à la rhétorique et paix à la syntaxe ». Ce qui veut dire qu'il faut respecter la structure de la langue, la syntaxe, mais qu'il faut bouleverser la manière de s'en servir littérairement ou autrement. Hugo avait une analyse très, très forte et très juste, exprimée dans le cadre de la Révolution romantique. Et ça allait avec le bonnet rouge au vieux dictionnaire, qui voulait pas du tout dire qu'on n'employait plus les mots anciens, mais qu'il fallait plus de mots aristocrates et plus de mots roturiers. Là, je fais comme Queneau, c'est pas tout à fait ça. Mais c'était ça que ça voulait dire, c'est-à-dire que le mot devait cesser d'être un sujet, comme sous l'Ancien Régime, pour devenir un citoyen. Et ça, c'est quand même une très belle métaphore.
Il cite aussi Proust. Il cite Proust avec Santeuil, Jean Santeuil.
Sans le citer.
Il l'évoque. Proust aussi, c'est une magnifique source pour qu'il réfléchisse au langage, à son évolution.
C'est un fantastique observateur, j'allais dire formidable, mais je n'aime pas employer ce mot dans son sens
sauf si vous
familier.
Voulez dire, sauf si c'est le sens original.
Ah, le sens original.
S'il écrase tout de sa présence.
Qui est terrible. Mais c'est un fantastique observateur des variantes du français, parce que la manière dont il fait parler Françoise, et avec un grand respect pour les formes rurales, pour le langage spontané. Et très souvent, Proust caractérise ses personnages, non pas par un habillement ou une apparence physique, mais par leur langage. On reconnaît tout de suite Bloch ou d'autres par leur manière de parler, et qui est une satire de la rhétorique normalienne, dans le cas du jeune Bloch.
Le Faubourg Saint-Germain aussi, de la même façon.
Le langage du Faubourg Saint-Germain, bien sûr.
Nous allons nous en tenir là. Hein. J'observe que vous avez dit à l'instant, à l'arrêt, je n'aime pas employer le mot formidable de cette façon qui est banalisée ou qui est vulgaire, ce qui fait que, comme tout le monde, vous me paraissez dans votre réflexion, mêler un profond libéralisme, un goût, un appétit pour la langue qui bouge dans toute sa force, et en même temps, aussi, vous n'échappez pas à la normativité.
Mais je me la réserve. C'est ça la grande différence. Je ne prétends pas l'imposer aux autres. Je préfère dire dompter que dompter et employer formidable au sens de terrifiant, mais je ne demande à personne de le faire.
Je me la sers moi-même avec assez de verve, mais je ne souffre pas qu'un autre me la serve. C'est bien ça. Dernier mot, merci beaucoup. Votre livre, Alain Rey, écrit en collaboration avec Frédéric Duval et avec Gilles Soufi, s'appelle « 1000 ans de langue française, histoire d'une passion » et vient de paraître aux éditions Perrin. J'ai fait allusion aussi au livre de dialogue entre Pierre Encrevé et Michel Brodeau. Ils vont de jardin en jardin, c'est assez bucolique, tout en étant très moderne. Un livre qui s'appelle « Conversation sur la langue française », qui vient de paraître chez Gallimard et qui est prolongé par un débat avec différents auteurs, notamment Alain Bentolila, Jean-Marie Borzex, Éric Orsenna aussi, dans le dernier numéro, mars-avril 2007, de la revue Le Débat. Alain Bentolila qui a publié ce livre que j'ai évoqué également, « Le Verbe contre la barbarie » aux éditions Odile Jacob. Je rappelle à tous qu'il est possible d'écouter cette émission pendant un mois sur le site internet de France Culture ou, si vous le souhaitez, bien sûr, la télécharger. Samedi prochain, puisque les espions ressurgissent, semble-t-il, de partout, notamment à partir de la Russie, eh bien nous parlerons de la figure de l'espion et je recevrai Alain Deverpe. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec la collaboration d'Agnès Chauveau, de Meryl Moneghetti, avec Patrick Molinier, Guy Senot, Virginie Grosset, et pour les archivinas, Florence D'Artois et Véronique Jolivet.
Thank you.